Les gens disent un peu n'importe quoi et ils pointent le doigt, c'est un raccourci, nourriture égale diabète de type 2, sans tenir compte qu'il y a des tas d'autres facteurs et déjà la génétique est à la base. Après, le facteur poids est un paramètre supplémentaire. Mais j'ai pris ce paramètre comme l'idée centrale de la maladie et ça m'a beaucoup culpabilisée. Chaque fois que je mettais quelque chose de sucré dans ma bouche, j'avais l'impression de faire un faux pas. Et ça s'est empiré.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux comme la naissance ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisserre et Cécile et le quotidien 24 heures. J'espère que vous avez passé un bon été. Dans cet épisode de rentrée, nous allons parler du diabète, celui de type 2, une maladie qui toucherait plus de 460 000 personnes en Suisse. Elle souffre pourtant encore de perceptions très négatives, de préjugés et de stigmatisations liées à l'alimentation et au poids. Antonella, comme plus de la moitié des diabétiques, ignorait sa maladie. Et c'est un peu par hasard qu'elle l'a découverte.
C'est en rencontrant une amie à qui j'ai raconté que je buvais beaucoup d'eau en hiver, entre 4 et 5 litres par jour, et j'urinais systématiquement juste derrière. Donc je n'arrivais pas à apaiser ma soif. C'était un sentiment assez terrible d'avoir soif comme ça et de jamais pouvoir l'apaiser. Et cette amie était infirmière, et toujours infirmière, et puis elle m'a dit à ce moment-là, « Mais écoute, il faudrait peut-être regarder s'il ne s'agit pas d'un diabète. » Et c'est comme ça que j'ai vu mon généraliste, on a fait des analyses et on a découvert qu'effectivement j'étais diabétique de type 2.
Il faut en moyenne 7 ans pour découvrir un diabète de type 2, une maladie très silencieuse. La doctoresse Daniela Sofra, endocrinologue et diabétologue aux cliniques Boisserre et Cécile.
Comment on fait pour savoir qu'on a du diabète de type 2? Très souvent, on ne le sait pas. Il y a des personnes qui développent des symptômes qui sont liés à l'élévation de la glycémie dans le sang de manière importante. Si vous mettez un morceau de sucre à côté d'une source de liquide, il va absorber le liquide. Dans notre organisme, c'est la même chose. Vous mettez beaucoup de sucre dans le sang, il va absorber notre liquide. Donc, il va nous déshydrater. Ces personnes vont observer qu'elles ont la bouche pâteuse, signe de déshydratation, qui vont boire beaucoup, signe de déshydratation, qui vont faire pipi très souvent, signe aussi qu'ils éliminent ce surplus de liquide. Donc on peut avoir des signes évidents, comme on peut ne rien avoir. Donc les patients qui arrivent à une consultation, c'est, je dirais, peut-être 80% des cas par hasard, parce qu'ils font un bilan annuel, parce qu'ils ont quelqu'un dans la famille qui a du diabète, parce que c'est un contrôle pour la grossesse, etc.
Et attention, car il existe deux types de diabète qui n'ont pourtant rien à voir l'un avec l'autre.
Diabète de type 2 et diabète de type 1 ont de commun le nom. C'est tout. C'est le seul aspect. Leur nom diabète qui vient de l'origine, qui signifie passer à travers, parce que dans les deux formes de maladie, on trouvait à l'époque des traces de sucre, de glucose dans les urines. D'où un nom commun pour deux maladies qui sont très différentes. Le diabète de type 1, pour faire la version courte, est une maladie auto-immune caractérisée par la destruction des cellules qui produisent de l'insuline. Donc on ne peut rien y faire particulièrement dans le comportement, c'est un déficit, on doit substituer le déficit. Le diabète de type 2, C'est une maladie complexe, multifactorielle, liée à une perturbation essentiellement de la capacité de répondre à la stimulation de l'insuline, mais aussi à un déficit d'autres hormones impliquées dans le métabolisme du glucose, qui se manifestera au bout d'un certain temps avec le même symptôme de taux de sucre élevé dans le sang, hyperglycémie.
C'est assez étrange parce qu'il s'agit d'une maladie qu'on ne voit pas. Quand vous avez un gros bouton sur la figure, ça se voit, vous allez chez votre dermato, on vous donne une pommade. Lorsque vous êtes diabétique, on vous explique ce qui vous arrive, et puis vous n'en prenez pas tout de suite conscience. Vous faites une palette d'examens, on vous donne des résultats, on vous explique de quoi il s'agit, mais en réalité, on n'a pas de séquelles corporelles externes. Du coup, on ne voit pas le diabète. C'est une maladie silencieuse. Je pense qu'on peut parler de déni, oui. Parce que c'est très dur de faire une prise de conscience de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas vraiment en soi. Et comme c'était le début du diabète, il n'y avait pas des conséquences graves sur ma personne physique. Donc du coup, j'ai mis longtemps à accepter et aussi à faire les changements qui allaient avec. J'avais l'impression d'avoir une espèce de punition. C'était un peu difficile dans ce sens-là. Je ne me souviens pas vraiment comment je suis sortie du déni. Tout ce que je sais, c'est que j'étais rentrée dans une routine. Je prenais mes médicaments, j'avais mes consultations. Donc cette régularité vous amène à prendre conscience que vous êtes malade. Et la discussion avec le médecin fait aussi que vous voyez l'évolution de votre maladie. Chaque fois que vous voyez votre médecin, il a des prélèvements sanguins. Vous voyez à quel niveau vous en êtes avec votre hémoglobine glycée. Vous-même, vous devez faire des prélèvements sanguins pour avoir des glycémies au bout du doigt. Et vous voyez évoluer les glycémies. Vous voyez que des fois, elles montent très haut si vous avez mangé quelque chose qui n'était pas prévu ou qui ne rentre pas dans le cadre de la thérapie. Vous voyez aussi descendre très bas. Vous devez surveiller les hypoglycémies, les hyperglycémies. Donc c'est cette routine-là qui a permis de faire une prise de conscience, je pense.
Si le diabète de type 2 est plus fréquent à partir d'un certain âge, il existe toutefois des facteurs de risque variés.
Si on est né dans une famille où il y a une prédisposition familiale, le père, la mère, le grand-père, les cousins, les tantes, il y avait du diabète dans la famille, ben on est venu au monde avec des gènes où il y a une certaine prédisposition. Donc ça, c'est un facteur non modifiable. L'âge, le vieillissement de notre corps, tous les organes vieillissent, donc il y a plus de risques de développer un diabète, et là encore, ce n'est pas modifiable. Le sexe a un peu moins d'influence, même si la femme, après l'âge de la ménopause, peut-être il y a une incidence légèrement plus élevée. Et après, il y a toute une série d'autres facteurs qui sont notamment l'alimentation, je dirais, la qualité ou l'excès alimentaire, l'excès d'alimentation de produits industriels raffinés, le surpoids qui peut aller ensemble, et au-delà du surpoids, plutôt le tour de taille, l'augmentation de la graisse abdominale et la sédentarité. Peut-être qu'il y a une image type qu'on fait coller sur la personne avec le diabète type 2, mais on devrait imaginer d'avoir un curseur imaginaire et pouvoir le déplacer en mettant cette image type de la personne d'âge moyen, je dirais 55 ans, avec un peu d'embonpoint, voire de l'obésité, peut-être une alimentation un peu généreuse. Mais à partir de là, on devrait pouvoir déplacer ce curseur vers des personnes qui peut-être n'ont pas du tout ce profil de surpoids ou d'obésité, ou n'ont pas du tout un style alimentaire riche ou industriel, mais qui rentrent quand même dans la catégorie des diabètes de type 2, ou peut-être on peut retrouver des personnes franchement obèses et qui parfois n'ont même pas de diabète.
Lorsque j'ai découvert que j'étais diabétique, j'avais un surplus de poids. Ça fait 13 ans que je suis diabétique. Ce n'était pas encore l'époque où on entendait beaucoup sur Internet. Oui, Internet était là, mais on n'en discutait pas autant qu'à présent. Il n'y avait pas autant d'émissions. Autour de moi, on disait, oui, le diabète de type 2, c'est lié au poids. Les gens disent un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, les gens ne sont pas vraiment au courant. Et ils pointent le doigt, c'est un raccourci. Nourriture égale diabète de type 2. Sans tenir compte qu'il y a des tas d'autres facteurs. Et déjà, la génétique est à la base. Après, le facteur poids est un paramètre supplémentaire. Mais j'ai pris ce paramètre comme l'idée centrale de la maladie. Et ça m'a beaucoup culpabilisée. À ce moment-là, chaque fois que je mettais quelque chose de sucré dans ma bouche, j'avais l'impression de faire un faux pas. Et ça s'est empiré. Et l'entourage, je ne parle pas de ma famille, mais l'entourage professionnel faisait que ces raccourcis d'idées sur le diabète me mettaient encore plus mal à l'aise. Du coup, je n'ai pas voulu parler de ma maladie autour de moi. Les rares personnes qui étaient au courant avaient des fois une mauvaise habitude, si je mangeais au sein dans mon lieu de travail, de dire « Ah, t'as le droit de manger du chocolat, t'as le droit de manger un biscuit. » Or, on a le droit de manger ces choses, il faut juste les calculer dans la journée. Mais ces remarques continuelles ont fait que je me suis un peu retirée, que je n'ai pas voulu parler de ma maladie, je me suis un peu isolée.
Un phénomène d'autoculpabilisation courant chez les patientes et patients diabétiques.
Il m'arrive des fois de poser la question à un patient, je dis « mettez-vous à ma place et donnez-vous des conseils de qu'est-ce qu'il faudrait faire » quand il me dit « ah mais je sais que je n'ai pas fait comme il fallait ». Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça veut dire quoi faire comme il fallait? Et il y a des personnes qui sont extrêmement dures avec elles-mêmes, vont à des extrêmes dans lesquels je n'irai jamais parce que ça apporte pas plus. Un patient me disait aujourd'hui, je sais que je ne devrais plus jamais manger de frites, je ne devrais pas prendre de dessert, je devrais me priver de toute forme de boisson autre que l'eau. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que dans la vie quotidienne, il est souhaitable d'avoir une alimentation équilibrée et qu'après, il y a les moments occasionnels de plaisir ou de fête où on s'écartera de la manière de vivre habituellement et on y reviendra par la suite. Et il ne sera rien passé de particulier pour un petit moment où on a vécu différemment. Et ce regard, peut-être, il n'est pas suffisamment connu, il n'est pas suffisamment généralisé, et peut-être qu'une personne qui n'a pas la donnée glycémie dans ses paramètres à surveiller suit une alimentation tout aussi mauvaise que celle d'une personne qui peut-être développe un diabète, mais qui se sent moins culpabilisée ou qui regarde d'un regard un peu de travers une personne qui a du diabète, mais c'est pas pour autant mieux.
Le diabète de type 1, vous avez un traitement à base d'insuline, donc les gens considèrent que vous êtes malade. Le diabète de type 2, déjà, on ne se pique pas forcément. Il y a d'autres médicaments par voie orale. Dans l'esprit des gens, si on ne se pique pas, on n'est pas malade. Si on prend des pastilles, c'est que ce n'est pas grave. Donc le diabète de type 2 est plutôt vu comme quelque chose de plus léger, de moins grave que le diabète de type 1. Et surtout, comme on fait ce raccourci avec l'alimentation, on considère que la personne, c'est un peu comme... Si vous fumez et vous avez un cancer des poumons, vous culpabilise, mais c'est peut-être pas forcément... La fumée est un facteur aggravant, mais ça n'a pas été forcément la problématique qui a déclenché le cancer. Pour moi, il s'agit d'une stigmatisation. J'ai l'impression qu'il est facile de pointer du doigt sans comprendre. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une méconnaissance de la situation. Il y a beaucoup de gens qui sont diabétiques et qui ne le savent pas ou qui sont même prédiabétiques. Et ça devient vraiment un problème de société. Je trouve que c'est important d'en parler, justement de déstigmatiser cette situation pour que les gens puissent se prendre en charge tout de suite, sans honte. Un des gros problèmes que j'ai vécu, c'était les sorties. Alors j'ai beaucoup de chance parce que je ne bois pas d'alcool, l'alcool étant du sucre pur, donc pour moi c'est déjà un point positif, je ne bois pas d'alcool. Donc je peux me rabattre sur les petits fours et les sucreries avec l'esprit un peu plus léger. Mais par exemple quand j'ai une sortie, il faut que je considère cette sortie dans mon je dirais, mon planning nutritionnel des jours qui suivent ou des jours qui précèdent, par exemple. Donc, je dois faire attention dans ce sens-là. Mais j'essaye de ne pas me priver. C'est-à-dire que s'il y a un gâteau sur la table, j'en mangerai un petit bout, j'en mangerai pas deux tranches. Si on m'en repropose, je dirais poliment que j'en veux plus. Même si les gens insistent, je n'en mangerai pas deux fois. Mais ça aussi, c'est mon médecin qui m'a aidée à comprendre que j'y avais droit. Parce qu'avant, quand j'allais dehors, je me privais de dessert, ou alors je ne prenais pas un plat de pâtes, mais je prenais une protéine avec des légumes ou que des légumes. Et puis ça commençait à devenir un peu triste, je n'avais plus le plaisir de sortir, de manger. Donc elle m'a appris que j'avais le droit et qu'il fallait juste moduler les choses. Voilà. Mais que la privation ne devait pas faire partie de mon langage. Il fallait manger différemment, mais pas en se privant.
Pour la doctoresse Sofra, se soigner d'un diabète de type 2, c'est avant tout éduquer sur la maladie.
Une grande partie de la gestion des valeurs de glycémie dans le sang et de la possibilité de freiner cette insuline vont passer par avoir accès à une alimentation saine, à une alimentation équilibrée, comprendre qu'entre un pain brioché d'une grande surface pour faire son sandwich, si je prends un exemple d'un repas qui n'est pas idéal en termes d'équilibre, ou un pain complet acheté dans la boulangerie du coin qui n'aura pas d'agent conservateur, il y a tout un univers en termes de qualité et donc en termes d'impact sur l'organisme. Que avoir accès à des légumes à chaque repas a une importance, d'où l'importance du dialogue. Là, je l'appelle dialogue, mais dans la réalité, c'est toute une discipline qui s'appelle éducation thérapeutique du patient. Donc, accompagner le patient, être en tant que médecin, pour ce qui me concerne, spécialiste, un facilitateur de la connaissance de tous ces éléments que la personne avec le diabète va pouvoir mobiliser dans son quotidien. S'il a compris que ne pas être sédentaire peut être extrêmement bénéfique, peut-être qu'il se mobilisera un peu plus souvent. Et ce dialogue-là, cette formation-là, je pense que c'est le cœur de toute la gestion et la prise en charge du diabète de type 2.
Je me suis rendu compte qu'il y avait du sucre partout, même dans des charcuteries ou des choses anodines qu'on n'imagine même pas. Et puis, en regardant cette quantité de sucre, je me suis dit, mais on me demande d'avoir une certaine limite, mais là, la limite, elle est dépassée haut la main, sans qu'on s'en rende compte. Donc, j'ai dû déjà mettre en place tout un calcul alimentaire, si vous voulez, un peu ce que nous faisons lorsqu'on entame un régime avec les calories. J'ai fait la même chose avec le sucre. J'ai mis en place aussi de l'exercice physique, parce que courir toute la journée à son travail, ce n'est pas de l'exercice physique. L'exercice physique, c'est faire du sport, renforcer sa musculature pour permettre au sucre de mieux digérer. Donc j'ai dû mettre en place aussi du sport. On ne se rend peut-être pas compte, mais une maladie comme le diabète, ça demande du temps pour s'occuper de soi. On doit se piquer, on doit vérifier, on doit noter, on doit faire un compte rendu, il faut le transmettre à son médecin traitant, il faut aller au rendez-vous médicaux qui sont réguliers. Ma diabétologue m'a proposé de faire des cours au sein d'un hôpital, des cours concernant le diabète, où nous étions toute une équipe de diabétiques, donc nous avons pu échanger. C'était plusieurs cours sur l'année. Ça m'a permis d'avancer par contre.
L'autre point important dans la prévention et qui fait l'objet d'énormément de cours qui se développent, de campagnes de sensibilisation, c'est l'activité physique. Ce n'est pas pour rien qu'on voit des affiches Urban Training, des communes qui mettent à disposition gratuitement, c'est une chance, des professionnels qui nous accompagnent dans la pratique de l'activité physique ou pour les patients diabétiques. Il y a un programme qui s'appelle DiaFit, patients diabétiques de type 2. Pris en charge par l'assurance de base, au même titre qu'un traitement médicamenteux, tellement la pratique d'une activité physique est fondamentale dans le fonctionnement adéquat de notre corps, comme toute machine. Si vous avez une belle voiture et que vous la faites rouler jamais, le moteur, il vieillira pas bien.
J'avais perdu énormément de poids grâce à l'aide de ma diabétologue. Et puis, à ce moment-là, je me suis retrouvée en prédiabète, parce que le diabète de type 2, on peut être en rémission. C'est-à-dire que, ça reste une épée de Damoclès suspendue sur la tête, mais j'avais arrêté les médicaments, je n'avais plus rien, je faisais le nécessaire avec le sport. C'était formidable. La vie n'étant pas une ligne droite, en vieillissant, en étant une femme, vous avez les inconvénients de la ménopause, peut-être des soucis familiaux qui se greffent dessus. Et les choses changent, quelques kilos reviennent, et malheureusement, je suis retombée en tant que diabétique de type 2, de manière moins violente qu'au tout début où je suis tombée malade, mais j'ai dû recommencer les médicaments.
Si on arrive à aller au-delà de cette culpabilité, à instaurer les changements nécessaires, on peut parler de rémission du diabète. J'utiliserai pas le terme de guérison, parce que la guérison, ça veut dire la disparition de la maladie. Là, quand on va très loin dans la prise en charge du diabète, on peut obtenir une rémission de la manifestation hyperglycémie. Les facteurs de risque non modifiables dont on a discuté, ils ne vont pas disparaître, on ne va pas changer les gènes d'une personne. Mais par contre, si on arrive à acquérir une certaine sérénité, faire la paix avec toutes ces notions d'alimentation, avoir un style de vie moins sédentaire, là, on peut rentrer dans, numéro un, une rémission du comportement, un changement du comportement. Et dans un deuxième temps, successivement, si on enlève les barrières à la résistance à l'insuline, qui sont la graisse abdominale essentiellement, et dans certains contextes, le surpoids, là on peut imaginer d'être dans une rémission.
Toutefois, il ne faut pas oublier que le diabète de type 2 non traité ou négligé peut conduire à d'autres pathologies, dont certaines graves.
Si on laisse traîner, l'hyperglycémie extrêmement oxydante, ce stress oxydatif va abîmer la paroi de nos vaisseaux. Par là, je veux dire qu'on peut avoir des conséquences du diabète au niveau de notre œil, de notre rein. Les gros vaisseaux, parce que malheureusement, dans le diabète de type 2, vu ce lien étroit comme facteur de risque avec l'alimentation, le surpoids et la sédentarité, cette augmentation de la résistance à l'insuline abdominale ne vient pas seulement générer une augmentation du taux du sucre dans le sang, elle s'accompagne d'un dysfonctionnement au niveau hépatique, d'une transformation de cet excès de sucre en graisse, parce que le corps ne sait pas quoi en faire, il faut bien qu'il la dépose quelque part. Très souvent, ces patients, ils n'ont pas seulement du diabète, ils ont un syndrome métabolique, c'est-à-dire de l'hypercholestérolémie, un excès de cholestérol dans le sang, et parfois aussi de l'hypertension par augmentation des résistances au niveau artériel. Ces facteurs ensemble deviennent un peu une petite bombe qui va pouvoir amener des conséquences aussi au niveau des grands vaisseaux, donc c'est-à-dire le cœur, des coronaryopathies, des maladies qu'on connaît sous le terme d'infarctus, des problèmes dans les grandes artères au niveau des jambes, et malheureusement, une conséquence potentielle d'un diabète de type 2, encore une fois, chroniquement déséquilibré. Pas parce qu'on a un diabète, on va avoir des conséquences.
Première chose que je peux dire à une personne qui découvre qu'elle est diabétique de type 2, c'est d'abord de faire confiance à son médecin, de bien s'entourer et d'en parler à sa famille surtout, mais d'en parler de manière intelligente. Par exemple, les cours que j'avais pris au sein de l'hôpital permettaient à la famille une personne de la famille d'accompagner le malade pour comprendre la maladie. Donc je trouve que c'est important de comprendre les choses. Et puis, si jamais ces gens rencontrent des gens qui sont ignorants de la situation, qui ne connaissent pas la situation, de leur expliquer avec leurs propres mots en quoi consiste la maladie. Et puis, s'ils se sentent blessés, ce que je fais aujourd'hui, de dire que c'est blessant et que c'est discriminant et que la discrimination ne fait pas avancer les rapports entre les êtres humains. Voilà. Et à part ça, je dirais aussi qu'il faut ne pas arrêter de vivre, parce que oui, c'est une maladie, mais bien gérée, C'est une maladie qui peut même disparaître de votre esprit, si c'est bien géré. Dans une bonne routine positive, on arrive à des tas de choses. On arrive à vivre à 99,9% normalement, on va dire. Voilà.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur le diabète de type 2 en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.